Aubervilliers, merci au campus Condorcet. Et enfin, nous y sommes. Il y a déjà eu une première conférence sur le thème « Être représenté, contribuer, faire société ». Celle-ci est un peu particulière et on voudrait en effet que puissent se diversifier les formes d'intervention, y compris en commençant à travailler avec les lycéens, en commençant à travailler avec diverses associations. Et bon, ce que nous avons le plus facile à faire, mais ce n'est pas sûr que ce soit si facile, c'est un dialogue. C'est-à-dire deux points de vue différents, celui d'un philosophe et celui d'un historien, sur le sujet qu'ils ont choisi en commun, le temps pour faire société. Et il y aura d'autres dialogues. Donc je présente brièvement chacun des interlocuteurs, je ne vais pas dire conférencier justement. François Hartog est historien, il est directeur d'études à l'EHESS, chaire d'historiographie ancienne et moderne. En fait, c'est un vieux copain, c'est-à-dire que nous étions pratiquement ensemble au lycée. Donc nous nous connaissons depuis le lycée Pasteur, à travers le centre Louis Gernet, avec Jean-Pierre Vernant, Vidal Naquet. Et le premier intérêt qui nous a rapprochés, c'est celui pour les Grecs. Un mot quand même pour dire que François Hartog avait dans l'idée de refaire le périple d'Ulysse en bateau et de trouver les lieux où s'arrêtait Ulysse et donc de refaire l'Odyssée. Et son premier grand livre n'est pas un livre sur l'Odyssée, mais il est un livre sur les Grecs, Le miroir d'Hérodote, essai sur la représentation de l'autre, un livre de 1980 qui a fait beaucoup bouger les lignes. Sur justement qui est l'autre et qu'est-ce que c'est que l'histoire. Je mentionne dans la même perspective un livre ancien, moderne, sauvage de 2005 qui fait bouger aussi la notion de barbare et Mémoire d'Ulysse, récit sur la frontière en Grèce ancienne de 1996. Pour compléter sur les Grecs, il faut savoir que François Hartog est l'éditeur de Plutarque et de Polybe. Évidemment, il a travaillé sur l'historiographie, sur Fustel de Coulanges par exemple, et sur l'écriture de l'histoire dans son rapport aux politiques, par exemple autour de Pierre Vidal-Naquet, un historien dans la cité, historien en personne, ou les usages politiques du passé avec Jacques Revel. Il mène en fait une réflexion sur le temps, sur nos rapports au temps, qui est jalonnée par plusieurs livres. Et l'un plus marquant que les autres, qui est celui qu'on retient d'habitude, c'est « Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps », avec deux mots un peu nouveaux. Historicité, ça va encore, mais présentisme, c'est une autre paire de manches. Donc, il va falloir s'en expliquer. Il est paru au Seuil en 2003, et il y a un livre qui doit paraître au printemps 2020, intitulé « Chronos, l'Occident aux prises avec le temps ». Je passe à Frédéric Worms, qui, lui, est philosophe. Je le connais depuis moins longtemps, simplement parce qu'il est plus jeune. Mais ça fait un moment quand même. Il est professeur de philosophie contemporaine à l'École normale supérieure et directeur adjoint de cette école, membre du comité consultatif national d'éthique depuis 2013, et ça compte dans son parcours. Et je crois que ça compte dans ce qu'il va nous dire. C'est le grand spécialiste de Bergson. C'est lui qui a fait son édition complète, sa première édition critique, qui est parue au PUF entre 2007 et 2012. C'est-à-dire qu'il est le grand spécialiste du temps comme expérience, comme durée, et comme moment, et puis aussi comme part de vie, comme rapport au vital. Et je crois que ces deux concepts, si vous voulez, le temps comme durée, comme moment, et puis ce que c'est que le vivant et le vital, vont orienter ce qu'il a à nous dire, ou la manière dont nos deux interlocuteurs vont discuter. Il a publié en 2017 « Les maladies chroniques de la démocratie », parce que le temps est une matière politique, et c'est ça qu'on va voir ici et aujourd'hui. Son dernier ouvrage que je viens d'avoir entre les mains est une correspondance avec une certaine A, trois petits points, trois étoiles, qui s'intitule « Pour un humanisme vital, l'être sur la vie, la mort et le moment présent ». Il vient de paraître chez Odile Jacob. Et dans chaque moment, dans chaque versant de son travail, qu'il s'agisse de Bergson, qu'il s'agisse de la notion de moment, qu'il s'agisse de la vie, du soin ou de la démocratie, le temps joue un rôle central. Donc le dialogue va porter sur la spécificité de la situation contemporaine à travers ses représentations du temps, le philosophe et l'historien, chacun rencontrant les questions de l'autre. Quel est notre régime d'historicité? Comment penser le présent? Constitue-t-il un moment déterminable? Comment répondre à tous ces défis? Il s'agit d'explorer les écarts entre le temps cosmique, celui du monde, le temps historique, celui qui est le nôtre, des hommes, et le temps politique, et les conséquences de ces différences, de ces discordances sur les manières de faire société. Voilà, je leur laisse à présent la parole.
Merci de nous accueillir ici. Merci Barbara pour tes mots de présentation. Et vous évoquiez le regretté président François Mitterrand, et qui, avec cette formule qu'on a beaucoup retenue, il faut donner du temps au temps. Et je pense que cette formule, alors on peut en faire de multiples usages. Donner du temps au temps, ça peut être une façon de retarder une décision. Bon, c'est un vieux truc politique. On peut aussi l'entendre, justement, comme une sorte de contre-pied par rapport à l'air ambiant, qui était plutôt dans l'immédiateté, dans l'urgence, mot sur lequel nous allons revenir, et donner du temps au temps, c'était dire, voilà, moi je prends le temps de la décision, je prends le temps de... Donc il y a, dans cette formule, il y a une prise de position politique par rapport au temps de la cité. Dans le titre le temps pour faire société, je voudrais surtout parler, du moins d'abord, de ce temps qui conduit non pas à faire société, mais plutôt à défaire la société. Vous vous souvenez du discours de Camus à Stockholm, lors du prix Nobel? Alors, il ne s'agissait pas encore de réflexion directement sur le temps, mais c'était cette formule. Je suis beaucoup voulu faire le monde, refaire le monde, ou changer le monde. Hein, et moi, peut-être que ma tâche, c'est d'empêcher qu'il ne se défasse. Et le rapport au temps que nous entretenons, que nos sociétés entretiennent avec le temps depuis une quarantaine d'années environ, est porteur, je crois, d'un risque de les voir se défaire. Alors je m'explique un tout petit peu plus et après je passe la parole à Frédéric. Il m'a semblé que, et je n'étais pas le seul, évidemment, à porter ce regard ou ce diagnostic, qu'au cours des 50 dernières années, notre rapport au temps avait changé, et ce qui s'était manifesté, c'était un recul du futur, une crise de l'avenir, dont on a commencé à parler dans les années 1980, le sentiment que le futur se fermait. Tous ces points qui ont été notés par de différents observateurs, philosophes, historiens et autres, sociologues, mais qui, ce futur se fermait, alors on peut essayer de comprendre ce qui a amené cette crise du temps, cette crise dans le rapport au temps, je ne le ferai pas maintenant, mais ce qu'on a vu, en quelque façon, remplacer le futur, qui avait été si puissant, si fort, tout au long du 19e et la première moitié du 20e siècle, c'est le présent. Le présent comme devenant, pour ainsi dire, le seul temps à notre disposition. Et les années 1990 et encore 2000, ont été placées, je crois, dans nos sociétés, très largement sous le signe du présent. Le présent était une valeur. Il fallait non seulement être de son temps, mais vivre au présent. Et cette vie au présent, ça s'est traduit par toutes sortes d'injonctions qui ont été celles d'être mobile, celles d'être disponible, celles d'être flexible, toujours plus. Et c'était ça, vivre dans le présent, vivre au présent, être au présent, être présent au présent en permanence. Et c'est ce que j'ai essayé, c'est ce que j'ai proposé d'appeler présentisme, c'est-à-dire comme si le temps, le seul temps, encore une fois, qui était à notre disposition, devenait le présent, que le futur avait perdu sa force d'entraînement, sa force d'attractivité, et que le passé, du même coup, s'était lui aussi obscurci. Car à partir du moment où ce que le rapport au temps précédent, ce que j'appelle ce régime d'historicité antérieure, le régime moderne d'historicité, où le futur était la catégorie dominante, eh bien, au fond, le futur, si je puis dire, éclairait à la fois le présent et le passé. Et quand vous êtes dans ce type de rapport au temps, vous savez ce qu'il faut garder du passé. Vous voyez ce qu'il y a à conserver dans le passé et vous savez quelle histoire écrire. Et évidemment, le grand modèle de ces histoires, justement du 19e et d'une partie du 20e siècle, ces histoires téléologiques, ce grand modèle a été celui des histoires nationales. Les histoires nationales ont toutes été écrites sur ce modèle, c'est-à-dire c'est le futur qui déterminait, qui donnait à voir ce qu'avait été cette lente constitution de la nation, cette marche de la nation vers son accomplissement. Bien, c'est ce modèle-là qui se trouve mis en cause, mis en crise, autour des années 1960-1970, et comme si le temps avait horreur du vide, eh bien, le présent est venu occuper la place tenue précédemment par le futur. Et c'est ce présentisme qui a traversé, modelé nos sociétés et a, encore une fois, donné toute une série d'injonctions sur nos manières d'être, sur nos manières de vivre. Et il est bien évident que les transformations technologiques, la révolution numérique, est un élément fortement présentiste et que passer des montres bracelets de notre jeunesse au téléphone et au smartphone, c'est un changement de rapport au temps complet. Puisque la montre, avec ses aiguilles, vous indique une durée, le téléphone ne vous indique jamais qu'un temps instantané. Et du coup, il n'est plus possible d'évaluer combien de temps il faut pour aller d'un endroit à un autre, il faut se téléphoner 5 fois pour se retrouver dans le hall de la gare, machin. Bon, voilà. Donc, encore une fois, c'est des choses tout à fait importantes, enfin, qui sont tout à fait présentes dans la façon d'organiser, de faire société, précisément, ou de ne pas faire, ou de défaire nos sociétés. Mais je m'arrête et je passe la parole à Frédéric.
Merci à vous deux. Merci au campus aussi qui ouvre ces espaces de discussion. Je suis très heureux d'être là et de discuter de ces questions, mais aussi avec ses interlocuteurs et notamment avec François, qui pour moi est évidemment un historien qui a une hypothèse philosophique sur son objet, sur le temps, et de même que d'une certaine façon, depuis certaines hypothèses philosophiques, moi je risque quelques hypothèses historiques. Donc c'est un croisement qui d'ailleurs, dont je voudrais repartir. Ce que je voudrais faire, c'est faire, pour commencer, une hypothèse sur ce que fait François, en fait, et pour rejoindre celle que je voudrais proposer, qui implique une interprétation de ce qu'il fait. Donc ce sera aussi une discussion, je pense, qui peut s'ouvrir comme ça. Il y a un geste très profond, je pense, dans toute l'œuvre de François, et notamment sur notre époque, et qui semble aller de soi, mais à mon avis, il ne va pas de soi. Et il est justement un signe aussi de notre époque. C'est pour moi l'idée que un temps, une époque, se définit par son rapport au temps. Et en fait, ça n'a rien d'évident. C'est-à-dire, c'est au contraire, c'est un des gestes d'une certaine interprétation de l'histoire ou de l'historicité. L'historicité, c'est un terme philosophique d'ailleurs, hein, qui vient lointainement de Heidegger, qui a été repris par Ricoeur, qui est un de nos, j'allais dire, de nos amis philosophiques communs, sur ces questions en tout cas. Et je pense que ce n'est pas du tout évident. Et de dire, le rapport au temps définit... un rapport au temps définit notre temps, et peut-être que tous les temps qu'on peut distinguer dans l'histoire, peut-être que les moments justement de l'histoire se définissent par leurs différents rapports au temps. Et je crois que ça, c'est déjà une hypothèse au fond très, très intéressante, très importante, et moi je vais me permettre d'essayer d'expliquer comment je la comprends pour comprendre notre situation aujourd'hui qui inclut la position de François, mais avec une autre interprétation. Parce qu'en fait, je ne pense pas seulement qu'on soit passé d'un rapport au temps à l'autre, comme on pourrait être passé d'un rapport à l'histoire défini par l'avenir, à un rapport à l'histoire défini par le présent, disons, entre un rapport à l'avenir qui définirait le rapport à l'histoire jusqu'aux années 70-80, et puis depuis la fin, disons, des philosophies de l'histoire, quelque chose comme un temps ramené au présent, en plus... soutenu par les inventions techniques et aggravé aujourd'hui par les risques et la conscience de la précarité. Au fond, c'est un peu le tableau. C'est-à-dire, il y aurait simultanément dans cette interprétation, que je partage malgré tout en grande partie, il y aurait la fin d'un rapport à l'avenir, un développement technique majeur, et puis s'ajoute maintenant une peur, là aussi, de la disparition. Et tout ça, ça nous plonge dans le présent, l'urgence, etc. Donc il y a une interprétation possible, qui très grossièrement est peut-être celle que François soutient de cette façon-là, et qui a non seulement sa part de vérité, mais des enseignements très importants à nous donner. Mais ce n'est pas tout à fait la mienne. Moi, ce que je soutiendrais plutôt, c'est qu'on est passé d'un rapport à l'histoire qui n'est pas exactement un rapport au temps. Je ne pense pas que les philosophies de l'histoire, même le marxisme, avaient un rapport à l'avenir en tant que tel. Ils avaient un rapport à ce qu'on peut appeler le progrès, à l'avenir de quelque chose. À l'avenir, effectivement, certes à l'avenir, mais d'abord à une émancipation, par exemple, de l'humanité. Et on pourrait dire bien plus à la liberté, à l'égalité, à la justice qu'à l'avenir comme tel. Et d'ailleurs, c'est ce que Hans Jonas, quand il veut nous ramener au présent de la nature, critique. Ce n'est pas seulement l'avenir, c'est l'avenir... l'avenir pensé comme émancipation et par exemple par rapport à la nature. Donc il y avait un contenu de l'histoire qui était, je pense, en grande partie la réalisation de l'humanité dans des aspirations qui donnaient un sens à ses actes jusque et y compris au sacrifice de la vie, ce qui n'est pas sans importance. On peut dire que pour les philosophies de l'histoire traditionnelle, la preuve que l'histoire s'arrache à la nature, c'est que l'homme peut risquer sa vie. Ça a toujours été, depuis Hegel, le signe de l'historicité humaine. C'est que nous ne sommes pas seulement des êtres naturels. La preuve, nous pouvons risquer notre vie naturelle pour réaliser des valeurs qui, pour certains, sont transcendantes, pour d'autres, sont matérielles et naturelles aussi, mais quand même sont proprement humaines, c'est-à-dire ne sont pas simplement la survie, mais la justice. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus le passage de cela à un présent, qui n'est pas seulement défini par le présent, comme un rapport au temps parmi d'autres, mais tout simplement par un rapport au temps. C'est-à-dire que tout à coup, je pense, et je vais essayer effectivement de montrer en quoi ça peut rejoindre une philosophie de la vie, je pense qu'on est plutôt passé d'un rapport à l'action, à la liberté, à des contenus, à une expérience hantée par le rapport au temps comme tel, qui n'est plus seulement dans le temps, en train de faire ceci ou cela, avec certes une dimension temporelle, mais le plus souvent implicite, avec des projets, avec l'émancipation et la lutte contre l'injustice, etc. Mais une expérience hantée par le rapport au temps, c'est-à-dire la possibilité de la disparition, l'urgence du présent. Tout à coup, le temps devient un problème. Donc moi, mon hypothèse, c'est pas qu'on passe du rapport à l'avenir au rapport au présent, c'est qu'on passe de l'action dans le temps inconsciente de son rapport au temps, en un certain sens qui n'a pas tout le temps besoin de théoriser le rapport au temps, à une expérience obsédée par le temps. Et c'est là que je rejoins effectivement une certaine philosophie de la vie que j'ai mis très longtemps en fait à rattacher pour ma part à Bergson, en effet, sur lequel j'avais beaucoup travaillé. Moi, je soutiens un peu la thèse selon laquelle, au fond, nous vivons dans le temps le plus souvent sans y penser. Nous agissons dans le temps et que dès que nous y pensons, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal. C'est-à-dire, je soutiens la thèse que tout rapport conscient au temps est une souffrance, est une négativité, et que, par exemple, tout, et inversement, que toute expérience négative implique un rapport au temps. Par exemple, si on minimalement, hein, si de l'ennui jusqu'à la peur de la mort annoncée, dès qu'on prend conscience d'un danger, on a en plus, en double peine, un rapport conscient au temps. C'est le tic-tac de l'horloge dans l'urgence. On va reparler de l'urgence. C'est la question de la maladie chronique, qui est obsédée par le traitement, qui risque de nous empêcher de vivre parce qu'on pense constamment au temps, mais on ne peut plus profiter du temps. C'est aussi le rapport à la mort, y compris dans la fin de vie, où la mort annoncée, la catastrophe annoncée aussi, nous empêche de vivre parce que nous ne pensons qu'à l'avenir. Et en un certain sens, on pourrait se demander si le trait le plus grave de notre présent, ce n'est pas plutôt d'être hanté par un rapport à l'avenir comme destruction, ou bien par un rapport au présent dans l'urgence, mais plutôt par le rapport au temps qui devient obsédant. Et Bergson avait décrit ça d'une autre façon en disant, au fond, il y a le temps vécu, en effet, la durée, puis il y a le temps mesuré par les horloges. Et nous défigurons le temps pour agir dessus, nous le spatialisons. Mais ce que n'avait pas dit Bergson aussi, peut-être négativement que je le dis, il y a d'autres bergsoniens qui l'avaient un peu dit, comme Jean Kelevich, c'est que ce rapport conscient au temps, c'est une souffrance. Et c'est vrai que dans la philosophie de la médecine, je pense que c'est très important de comprendre que la maladie comporte toujours comme double peine de briser notre rapport au temps et que le soin doit comporter comme double tâche de traiter la maladie, mais aussi de rétablir un rapport vivant au temps, y compris à l'approche de la mort, ce qui est très compliqué. Et finalement, ce que je partage très profondément avec François, et c'est pourquoi je m'instruis beaucoup dans ses livres et dans les discussions, c'est que nous avons besoin de comprendre notre rapport au temps, mais ce que je pense aussi, c'est que nous avons besoin de retrouver une expérience du temps qui ne soit pas obsédée par le rapport au temps, qui nous a besoin d'agir en oubliant que nous pouvons demain disparaître, en oubliant que nous sommes aujourd'hui dans une urgence, ceci, cela. Et nous avons besoin de construire des espaces où nous faisons des expériences du temps en oubliant un peu le temps. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans des espaces publics comme d'enseignement, d'art ou aussi de politique par certains côtés. Et je pense que du côté politique, parce que c'est vrai que c'est important, on est aussi les uns et les autres hantés par l'idée d'une manipulation du rapport au temps, des usages. Parce que pour moi, le temps existe moins que le rapport des humains au temps. Et évidemment, dans le rapport des humains au temps, il y a l'usage que les humains font de ce rapport au temps. Donc il y a l'urgence, il y a le présent. Mais il y a aussi la façon dont certains hommes politiques, enfin, d'ailleurs je crois que c'est moins les hommes politiques que les idéologues de la politique, qui fournissent des arguments aux politiques, font par exemple nous faire un chantage à l'urgence ou un chantage à la peur. Et précisément, je pense qu'aujourd'hui, penser notre rapport au temps, c'est une nécessité politique, parce que les grandes philosophies de l'histoire, justement, nous orientaient vers un avenir justement qui n'était pas seulement un avenir mais qui avait un but humain, historique, émancipation ou autre. Aujourd'hui, est-ce que si le seul but est d'éviter la catastrophe, on voit bien justement qu'entre réaliser la justice et éviter la catastrophe, il n'y a pas le même rapport au temps, justement. Et ça, c'est quelque chose aussi, je crois, qu'on partage. Donc on ne peut pas se contenter d'éviter la catastrophe, pas plus que d'éviter la mort, même s'il faut commencer par ça, mais il faut redonner un contenu à notre expérience temporelle. Et là, je crois qu'effectivement, résister au présentisme, mais résister aussi à une certaine forme de catastrophisme, résister aussi au traumatisme, c'est peut-être le troisième isme, parce que le troisième rapport obsessionnel au temps, celui que François n'a pas cité, mais qu'il travaille aussi beaucoup, hein, c'est le moment où le passé aussi devient obsédant. D'ailleurs, dans ton présentisme, il y a aussi ce traumatisme, justement ce passé qui ne passe plus. Et d'une certaine façon, c'est encore un rapport obsessionnel au temps, c'est-à-dire double peine toujours de la souffrance qui vaut pour l'avenir, qui vaut pour le présent et qui vaut pour le passé. C'est-à-dire une souffrance passée se rappelle constamment à nous. Et dans un travail que j'avais fait sur ce que signifie le verbe revivre, je pense que je distinguais deux sens. Il y a revivre au sens de recommencer, mais il y a aussi revivre au sens de répéter. Et là aussi, on s'aperçoit d'une double peine, c'est que le passé qui ne passe pas, c'est toujours quelque chose du traumatisme. Alors, c'est vrai que pour Freud, c'est l'inconscient en général, hein, qui ne connaît pas le temps. Mais quand il y a cette phrase de Freud, je m'arrête là et après on pourra discuter, parce que je pense que la dimension psychique redevient très importante aujourd'hui. Freud dit « l'inconscient ne connaît pas le temps ». Et il le dit, au fond, en apparence, pour tout notre passé. C'est-à-dire, nous sommes fixés sur certaines scènes et l'inconscient est figé. Et le but de la psychanalyse, et Pontalis l'avait dit aussi, il y a un livre de Pontalis qui s'appelle comme ça « Ce temps qui ne passe pas » ou quelque chose comme ça. Le but de la psychanalyse, c'est de remettre le temps en mouvement. Bon. Mais en réalité, on s'aperçoit que l'inconscient étant figé sur certaines scènes, certaines expériences qui reviennent constamment, on revit jusqu'à la mort certaines scènes quand on était même pas seulement petit d'ailleurs, mais c'est toujours des scènes négatives. Donc comment est-ce qu'on peut se délivrer du rapport au temps en général si tout rapport au temps est négatif? Comment est-ce qu'on peut recommencer une histoire concrète? Je pense que, voilà, autant François a une hypothèse philosophique très profonde, autant moi je risque une hypothèse historique. Ça rejoint aussi l'hypothèse des moments, mais sur la question du vivant, mais je ne vais pas le dire maintenant. On a le temps d'en parler. Mais donc, voilà, moi, mon hypothèse, c'est que ce n'est pas seulement le présent qui définit notre rapport au temps aujourd'hui, c'est plutôt notre rapport au temps qui définit le présent, notre présent.
D'accord. Tu veux dire quelque chose ?
Donc,
oh, vas-y, je t'en prie. Bon. Je vois bien ce que tu nous dis, c'est-à-dire c'est notre rapport au temps qui définit, enfin, un sens, c'est nous sommes victimes de notre rapport au temps. Et c'est ce qui fait que ce présent est ce qu'il est aujourd'hui. Et tu plaides aussi, alors ça, j'aimerais que tu précises à un moment ou à un autre, quand tu parles d'oublier le temps. Bon, alors, je comprends bien avec tout ce que tu viens de dire sur, au fond, il y a rapport au temps sous la forme de la douleur. On en fait l'expérience sous la forme de la douleur.
Quand il est conscient, explicite.
Oui, quand il est conscient, explicite. D'accord. Alors, moi, je voudrais pousser un petit peu plus loin ces mots qui sont à la fois MOTS et peut-être MAUX, ces mots du présent, ou ce que j'appelle les mots du présentisme. Bon. Parce que ça permet... Justement, tu peux à la fois, je pense que sur ces mots du présentisme, tu peux accrocher tes réflexions sur rapport au temps et oublier le temps. Mm-hmm. Bon. Et on peut aussi comprendre comment ces mots du présentisme contribuent à notre mal-être dans le temps. Alors, un qui a déjà été évoqué, enfin comme ça, aussi bien par toi que par moi, mais sans le développer plus, c'est tout ce qui relève de l'urgence. Bon. Et moi, je mettrai en même ensemble l'accélération et l'urgence. Alors, vous connaissez probablement les travaux de Hartmut Rosa sur l'accélération, cette théorie qu'il être présente de l'accélération dans ce qu'il appelle les sociétés de la modernité tardive. Et le point intéressant, alors il essaye d'en faire une théorie sociologique et philosophique, mais ce qui m'a intéressé surtout chez lui, c'est justement ses enquêtes, bon, toute la part d'enquête sur qu'en est-il en effet de cette vie dans une accélération permanente. Et une accélération qui ne cesse pas d'accélérer. Au point, dit-il, et ça je vous cite simplement cette phrase, l'accélération sociale présente de manière constitutive dans la modernité franchit, alors dans ce qu'il appelle la modernité tardive, un point critique. C'est ça qui est important, un point critique au-delà duquel il est impossible de maintenir l'ambition de préserver la synchronisation et l'intégration sociale. ce sont donc les effets de cette accélération de nos rythmes de vie, de nos modes de vie, de nos façons d'être ou de ce qu'on nous demande de faire, qui, au-delà d'un certain seuil, alors que l'accélération est un des traits constitutifs du temps moderne. Bon, ça, c'est justement toutes les analyses de Koselleck sur ce point sont tout à fait claires. Le temps moderne, porté par le progrès, le temps acteur, le temps agent, il est traversé par l'accélération. Bon, cette accélération moderne, elle est valorisée pendant tout un temps. Bon, c'est l'accélération de la révolution industrielle, si on veut. Voilà. Or, vient un moment où l'accélération, pour ainsi dire, devient sa propre fin. C'est l'accélération pour l'accélération, pratiquement. Et il y a une image qu'on peut donner à cet égard, de cette accélération qui ne cesse d'accélérer et qui finalement fait du surplace. C'est celle du hamster dans sa cage. Donc ça tourne de plus en plus vite, mais bon, il ne sort pas de sa cage. Voilà. Alors ça, c'est un peu ce que veut présenter, ce que veut étudier Rosa dans son livre sur cette accélération propre aux sociétés postmodernes, ou lui dit modernité tardive. Or, avec l'accélération, eh bien, vient l'urgence. Parce que plus on accélère, plus il devient urgent de faire ceci, de faire cela, et nous sommes dans une inflation de l'urgence. Au point que dire qu'une chose est urgente, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Et on a inventé toute une série de classifications, donc c'est très urgent. Si c'est urgentissime, enfin, je sais pas, il y a toute une... Bon. Donc ces catégories montrent bien qu'il y a... pour que ça soit vraiment urgent, il faut que ça soit très, 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 très urgent. Voilà. Si c'est simplement urgent, bon, on laisse tomber, on regarde ça la semaine prochaine. Bon, voilà. Donc c'est un trait, ça, des modes de travail, tout simplement. Et on saisit bien, actuellement, tous ces problèmes de l'urgence avec justement la crise des urgences à l'hôpital. Aucune compétence pour parler des urgences à l'hôpital, mais simplement ceci. Ce service des urgences, il a été créé en 1972. Et on voit bien aujourd'hui qu'il est pris dans des impératifs contradictoires. Et qu'il faudrait distinguer entre le fait d'aller aux urgences, comme on allait au dispensaire, et le fait d'être amené aux urgences, ce qui est tout à fait différent. Or, les deux ne sont pas séparables aujourd'hui. Enfin, après, il faut faire le tri quand les...
Ils attendent dans la même salle, en tout cas.
Dans la même salle. Bon. Donc, on a là un trait, je crois, qui... encore une fois, j'ai aucune compétence pour analyser ce qui se passe dans les services d'urgence. Mais simplement, relever que nous avons là un de ces maux du présentisme qui devient un des malheurs du présentisme. Avec l'accélération et l'urgence, alors peut-être un mot, puis je te repasse la parole, à propos de la politique. Ne voit-on pas se dessiner, ou parfois plus que se dessiner, une politique présentiste? Et je pense qu'il faut distinguer entre faire de la politique ou avoir une charge politique en un temps présentiste, bon, qui est une chose, et puis faire de la politique présentiste. Bon. Le meilleur exemple à l'heure actuelle de politique présentiste, c'est Donald Trump, puisque c'est la politique par tweet. C'est-à-dire que c'est le degré zéro de la politique. Alors, nous, et nous voyons bien que cette, dans l'exercice de la politique, il y a des temporalités différentes. Bon. L'homme politique ou la femme politique est confronté, enfin vit quotidiennement dans plusieurs temporalités. Il y a la temporalité du mandat, et donc le calendrier électoral, qui est souvent le seul horizon. Il y a la décision à prendre avec, justement, maintenant, la pression de l'urgence. Et comment nos mécanismes de décision peuvent rester des mécanismes, des façons de prendre, des façons démocratiques de prendre une décision, tout en répondant à l'urgence. Et on voit bien que ça marche très mal. Et nous avons depuis longtemps toute une série de gens qui disent « Bon, les parlements, ça ne marche pas, c'est beaucoup trop long, tous ces débats qui n'en finissent pas, il faudrait arriver à des décisions rapides, pourquoi pas faire ça avec des clics, et voilà. Bon. » Au fond, nous sommes... Alors, ça fait partie de la crise de la représentation politique, mais il y a une dimension temporelle dans cette crise de la représentation politique, avec l'intervention, avec la présence, justement, des médias sociaux et des téléphones, enfin des smartphones, des tweets, des Twitter, etc., etc. Bon, donc on est... Et au fond, simplement, ce que je veux dire, enfin, tout ça, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est que nous ne savons pas négocier avec tous ces impératifs qui se contredisent, ou qui s'opposent partiellement, qui se chevauchent. Nous n'avons pas, parce que nos régimes politiques, notre système politique n'a pas encore réussi à se repérer dans ce maquis des impératifs temporels contradictoires, ou encore une fois différents, ou qui se chevauchent. Voilà trois mots. L'urgence, l'accélération, la politique en régime présentiste ou la politique présentiste.
Merci. Alors j'enchaîne et puis après Barbara nous dira comment on continue. Mais c'est vrai que j'ai très envie d'enchaîner une seconde. Je pense que je partage le diagnostic et je pense en même temps qu'on peut proposer un début de... sinon thérapeutique, quand même, de réponse, de critères, en tout cas. Et c'est là que la question de la vie devient très, très importante. Parce que je partage, en fait, une partie seulement du diagnostic, mais je partage quand même très profondément, disons presque entièrement, sur l'idée d'une inflation de l'urgence et d'une accélération de l'accélération. C'est-à-dire il y a toujours eu de l'urgence, des urgences pour des vivants, quels qu'ils soient, c'est toujours arrivé qu'il y ait des urgences. Il peut toujours y avoir une urgence. Il peut y avoir un incendie dans cette pièce et ce sera une urgence. Et on peut avoir un accident, comme on dit, organique, etc. Et il y aura une urgence. Le propre du politique, ça a toujours été d'organiser le rapport social pour faire face aux urgences et pour préparer l'urgence. Donc on a dans cette salle des petits panneaux en cas d'urgence et on a un aménagement de l'urgence. Et même, je dirais, l'invention du service des urgences, ce serait intéressant effectivement d'en refaire l'histoire très précise, mais je pense qu'elle a un caractère très particulier qui est d'aménager, et comme disent les médecins d'un terme un peu brutal, mais en fait profondément politique et en réalité animé par une question de justice, de faire le tri entre les urgences. Ce qui fait que moi, dans un cours sur le temps justement récent, j'expliquais que le problème de la salle des urgences, c'est le problème du temps d'attente. Et moins c'est urgent, plus on attend, et c'est normal. Et chacun peut comprendre dans un système politique qui serait bien organisé, où on nous expliquerait bien les choses, que Bah oui, je suis arrivé là, mais en fait, celui qui est arrivé après, il est plus urgent, il doit passer devant, etc. Donc il y a aujourd'hui un problème majeur du service des urgences. Moi, je le prends effectivement comme un symptôme majeur, qui est plus un problème politique d'organiser cette sorte de service des urgences qui peut définir le politique en général, d'ailleurs, la hiérarchisation des urgences et ses critères et l'organisation sociale pour arriver à une juste répartition des urgences. Au fond, ça pourrait être une définition de la politique, en particulier aujourd'hui. Et il y a un problème majeur, effectivement, dont l'absence de moyens dans les services de santé, ou plutôt l'embouteillage tout à coup dans les services des urgences, montre qu'il y a quelque chose qui n'a pas été préparé. Donc, au fond, il y a une urgence avec les urgences qui montre qu'on a à la fois aujourd'hui une inflation des urgences et surtout, paradoxalement, une démission de la politique dans son rapport qui est plutôt de préparer les urgences. C'est pour ça qu'on a raison de dire que le problème des urgences, c'est en fait le problème de la médecine de ville et de la médecine en général. Donc il y a quelque chose qui s'est défait plutôt dans la sécurité sociale, c'est-à-dire dans l'organisation sociale face aux risques qui a été pensé dès la fin du XIXe siècle comme des risques sociaux majeurs. C'est plutôt de là qu'il y a eu un problème, plutôt que dans l'intensification des urgences. Ou plutôt, l'intensification des urgences aujourd'hui n'est pas seulement le signe d'un rapport au temps. C'est plutôt le signe d'une perte, mais alors peut-être que ça rejoint quand même ton diagnostic, d'une perte de la société comme organisant le rapport au temps, en particulier le rapport au risque. Et donc, quand les sociétés organisées, et en France, c'est quand même encore un des endroits où c'est le moins pire, on pourrait dire, il y a encore un peu de prévision, d'anticipation, de médecine structurelle, etc. Et du côté de l'accélération, on pourrait dire la même chose. Moi, je pense qu'il y a une accélération de l'accélération, effectivement, mais j'allais dire pour le meilleur et pour le pire. Et je pense que tout n'est pas non plus l'accélération du pire. Bien sûr, il y a une accélération du pire. Il y a d'ailleurs une accélération inouïe, par exemple, de la perte de la biodiversité ou du risque climatique. Ce ne sont pas des fictions. Si on parle d'Anthropocène, comme François le reprend d'ailleurs lui-même très, très fortement en histoire, c'est nouveau là aussi. Il n'y a que quelques historiens, dont François, Dipesh Chakrabarty et quelques autres, qui intègrent vraiment cette question de. C'est pour une raison très simple, c'est parce qu'il y a une accélération. Et en effet, on est en train de vivre une extinction biologique, un rythme inouï, etc. Mais on est aussi en train de vivre, et ça nous effraie pour la même façon, une accélération, et j'hésiterai pas à dire, du progrès. Et c'est une accélération non seulement quantitative, mais qualitative. Par exemple, la médecine génomique, l'intelligence artificielle sont pas seulement un peu plus de techniques dans la médecine, mais sont des sauts qualitatifs. Et des sauts qualitatifs qui aujourd'hui vont avoir lieu tous les jours, tous les 15 jours, mais réellement des grands sauts, hein. C'est-à-dire qu'on pourra faire des choses qu'on ne pouvait absolument pas faire, on ne pourra pas faire juste un peu mieux telle ou telle chose, mais on aura de la médecine génomique pour le meilleur et pour le pire, avec la médecine personnalisée qui sera du contrôle social et de la médecine personnalisée qui permettra d'identifier tel cancer parce qu'il y a dans les milliards de données concernant le cancer, on sait qu'il y en a eu deux comme ça et du coup on gagnera peut-être un temps fou et donc on sauvera peut-être une vie par l'informatique. D'où ma question, moi qui reste vitaliste au sens critique que moi je défends. C'est-à-dire que ce qu'il nous faut pour répondre à ces sujets, c'est un critère. Et je pense qu'il faut effectivement, on peut et on doit retrouver des critères, des bonnes et des mauvaises urgences, ou des urgences prioritaires ou secondaires, et des progrès et des régressions. Parce que moi, je ne suis pas du tout dans l'idée que toute accélération est un problème. Peut-être que oui, peut-être que non. Et donc, c'est là que moi, je réintroduis d'une certaine façon un critère à la fois vital et étendu jusqu'au vivant humain, avec des questions de justice et d'injustice en particulier, mais dont le premier critère de base est l'opposition entre ce qui détruit et ce qui empêche la destruction, entre la vie et la mort, finalement. Et je crois que c'est très, très important, parce que, en fait, c'est là que je résiste un tout petit peu. C'est pour ça que je dis que je vais juste presque jusqu'au bout. C'est-à-dire, au fond, bien sûr, on vit une inflation des urgences, mais qu'est-ce qui va nous permettre d'y répondre? Bah, c'est de hiérarchiser les urgences. Qu'est-ce qui permet de hiérarchiser les urgences? C'est de, comme toujours, finalement, c'est quand même des critères vitaux étendus à la justice et donc l'intérêt général, etc. Dans les plans d'urgence que font nos sociétés, parce qu'il y en a, hein, il y a des plans en cas de catastrophe et qui vont être très compliqués. Il y a des normes qui s'élaborent extrêmement compliquées. dans certaines sociétés, ça va être... Et les modèles de justice ne sont pas les mêmes. Hein. Dans certaines sociétés, ça va être effectivement... Par exemple, en France, on vit sur un modèle républicain que... Je vais vous donner un exemple d'ailleurs auquel j'avais participé il y a déjà longtemps, qui pose des problèmes mais qu'il faut défendre. On dit par exemple, on ne triera pas. Donc au moment de la grippe aviaire, on a fait des vaccins, c'était sous Roselyne Bachelot, je me souviens, et elle avait dépensé des milliards pour que tout le monde puisse avoir un vaccin pour un truc qui n'est pas venu, et on lui a dit, c'est un gâchis terrible, une soumission au labo, etc. Alors qu'en fait, c'était l'idée en France, aux États-Unis, d'une manière qui n'est pas une barbarie uniquement, j'allais dire, mais qui est un calcul utilitaire. On dit, on sauvera d'abord ceux qui ont des responsabilités sociales, on sauvera les humains, en particulier entre 13 et 40 ans, parce qu'avant 13 ans, on n'a pas encore investi sur eux, après, ils ne peuvent plus servir. Donc, il faut sauver la société, mais on ne peut pas tout faire. Donc ça, je pense que c'est... C'est ça les vrais débats, c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué, mais c'est de construire des normes politiques nouvelles, et où là on a besoin de politique, moi je pense. C'est-à-dire que. Et c'est vrai que l'urgence est obsédante aujourd'hui, c'est normal, l'accélération est réelle, les urgences sont graves, mais du coup ce à quoi on devrait être ramené, il me semble, c'est à une nécessité de hiérarchiser les urgences. Et je termine sur un point, parce que tu avais commencé aussi par là. C'est-à-dire, en un certain sens, c'est d'oublier le temps, faire comme si on avait le temps de préparer les urgences. Parce que sinon, j'allais dire, on est mort. Hein. Pourquoi est-ce qu'on est là en train de parler? C'est parce qu'on a suspendu un instant la question de l'urgence pour y réfléchir, et encore une fois, avec ces petits signaux verts, avec tout un tas de choses. C'est vrai que donc, ce contre quoi il faut lutter, c'est une banalisation des urgences qui fait que. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais je vois bien quand même que même dans... Voilà, j'ai plusieurs amis, et chez moi aussi, des gens qui ont des alertes, Le Monde, je ne sais pas quoi. Alors, on les alerte qu'il se passe quelque chose. On alerte tout le temps. Donc, moi, je partage cette critique radicale hein, de la génération. Et je pense même que la question des médias et de l'information est la méta-question majeure. En fait, c'est le sujet majeur, parce que là, ça brouille notre hiérarchisation des urgences. Et là où on a besoin des sciences sociales, puisqu'on est dans un campus de sciences sociales, un des campus de sciences sociaux parisiens, puisqu'on est dans on a besoin des sciences sociales, on a besoin de la politique, on a besoin de la littérature, on a besoin de l'art pour réapprendre à hiérarchiser nos urgences. Et c'est vrai que le danger majeur, c'est le brouillage des urgences. C'est là que je rejoins très profondément la critique du présentisme, qui peut se définir comme ça, finalement. Le présentisme, c'est plutôt l'urgence indifférenciée. Et comment est-ce qu'on en sort? Moi, je pense par une philosophie de la vie étendue au vivant humain. Si on n'a pas un critère, je pense un critère quand même normatif pour hiérarchiser les urgences. Voilà. Donc, c'est pas l'urgence ou bien le temps délivré de l'urgence. C'est une hiérarchisation fondée sur aussi des institutions. Qui, en effet, une des définitions de l'institution, c'est qu'elle elle dure et elle organise le rapport à l'urgence. Oui.
Alors, le présentisme, c'est l'urgence indifférenciée. Oui, on pourrait dire ça. Et je voudrais peut-être alors... On pourrait continuer à égrener un certain nombre de mots du présentisme, mais je ne vais peut-être pas le faire puisque le temps aussi passe. Et non, il n'y a pas d'urgence, mais enfin, quand même, il y a des horaires. je voudrais évoquer justement une façon qui est pratiquée par de plus en plus de gens aujourd'hui de sortir du présentisme, ou d'échapper au présentisme, ou de le contourner, ou de ruser avec lui. D'abord ces mouvements qu'on a vus se développer qui sont le slow. Slow qui est commencé par le slow, slow food, hein, et puis qui maintenant décline de multiples façons. Bon, ce ralentissement, aussi je ne suis pas un spécialiste des mouvements de ralentissement, mais j'ai trouvé intéressant que désormais c'est devenu un argument de vente. C'est-à-dire qu'en France, c'est repris par le marketing, ce qui veut dire que ça réussit d'une certaine façon. Comment ?
Alors, peut-être aussi. Mais donc, ça, c'est une des... On voit bien que c'est une des voies qui a été explorée, empruntée, développée. Donc, une façon d'exprimer ce mal-être du présent, ou ce mal-être du temps, ou ce mal-être dans le temps. Aujourd'hui, il me semble qu'on va beaucoup plus loin que ça. Et ce sont ce que nous voyons de plus en plus, c'est-à-dire c'est plutôt ce sont des sécessions, c'est-à-dire des gens qui sortent, qui quittent la ville, qui quittent les métropoles, qui veulent s'installer dans des endroits non seulement plus tranquilles, mais retrouver des manières de vivre, etc., plus naturelles. Bon, ce mouvement s'amplifie. Est-ce que ces mouvements qui s'amplifient et qui touchent plutôt des gens assez jeunes, enfin c'est pas des vieillards qui font ça, comme certains, mais c'est plutôt, je sais pas, des quarantenaires, enfin, des gens comme ça, bon, qui partent avec armes et bagages, enfants et tout, s'installer. Mais qui peuvent aussi avoir ce mode de vie parce qu'ils ont quand même Internet, parce qu'ils peuvent travailler chez eux. Enfin bon, il y a des. C'est pas un retour à la Terre. C'est pas ça. C'est pas le retour au pays des années 60. C'est pas le retour au pays des années 60. C'est pas la même chose. Justement, ça se veut, dans le projet en tout cas, ouvert sur l'avenir. C'est une façon de préparer l'avenir ou de prendre en compte l'avenir. Bon. Donc ce n'est pas le retour au pays. Ces mouvements-là, la question étant de savoir, est-ce qu'ils vont se coaguler et devenir une force politique ou pas ? Je n'en sais rien, évidemment. Mais ce seraient des mouvements dont le programme est quand même l'instauration d'un nouveau rapport au temps. Et ces mouvements, alors, je ne sais pas, c'est la grande vogue de la permaculture qui accompagne ça. Ce mouvement-là s'intensifie un peu partout parce que a surgi un nouveau danger dont je voudrais juste dire encore un mot, qui est ce temps nouveau qui a surgi, qu'on a vite, très très vite appelé Anthropocène. Alors toute la montée de l'Anthropocène, c'est quelque chose de très intéressant à regarder puisque ça se passe en quelques années, et le Anthropocène, bon, pourquoi Anthropocène ? Parce que ça veut dire qu'on reconnaît à ce moment-là, qu'on reconnaît par cette appellation, cette nomination, que l'espèce humaine, donc les humains en tant qu'espèce, sont devenus une force géologique. D'où on est sorti de l'Holocène, qui aura duré 12 000 ans, pour entrer dans l'Anthropocène. Mais les géologues n'ont pas encore complètement décidé s'ils l'adoptaient ou pas. Alors que ça, c'est leur prérogative. Alors je ne sais pas s'ils sont sur le point de l'adopter ou ils vont l'adopter. Mais ce qui est assez intéressant, là aussi, du point de vue non seulement du rapport au temps, mais des temporalités différentes des disciplines, des pratiques scientifiques. Les géologues, donc on réunit la commission de stratigraphie s'est réunie, etc., plusieurs fois pour savoir si on reconnaissait qu'on était vraiment, qu'il avait débuté une nouvelle ère géologique, qu'on a proposé d'appeler Anthropocène un peu par, comme ça, c'était presque une joke, celui qui l'a proposé, qui n'était pas un géologue. Mais le mot lui-même, l'appellation elle-même, s'est répandu alors dans les sciences sociales extrêmement rapidement, Et maintenant, dans les médias, anthropocène est devenu un mot courant. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, c'était encore... on ne savait pas trop de quoi on parlait. Et désormais, on en parle tous les matins, ou tous les soirs, ou tout le temps. Bon, voilà. Donc ce déplacement. Alors le surgissement de l'anthropocène est venu, en quelque façon, télescoper ou fracasser le présentisme. Et l'image que je reprends, c'est celle de la planète Mélancolia du film de Lars von Trier. Donc l'Anthropocène, c'est comme cette planète qui vient se fracasser la planète Terre. Bon. Et donc, cette montée, enfin, ce surgissement de ce temps nouveau, qui pour le coup est un temps d'une longueur extrême, puisque là on parle en millions et même en milliards d'années, face à cette petite bulle présentiste, accroît la désorientation des gens. D'où toutes sortes de réactions, toutes sortes d'attitudes, et notamment, alors ça on peut expliquer pourquoi, mais je ne ferai pas maintenant, et notamment des recours au schéma apocalyptique. Puisque quand il n'y a plus que ce que là, il y a ce présent qui paraît sans solution, la catastrophe arrive, la catastrophe est là, la catastrophe est sur nous, et le futur n'étant plus cette grande avenue que nous avions au 19e et une partie du 20e siècle, alors la réactivation de schémas de type apocalyptique, et le plus souvent en toute ignorance de ce dont il pouvait bien s'agir dans les textes soit des apocalypses juives, soit les textes du christianisme, fait recette avec l'apocalypse aujourd'hui. Et pour ne donner qu'un exemple, vous avez peut-être vu le livre de l'ancien ministre de l'écologie, Cochet, qui a publié un livre il y a quelques semaines, qu'il appelle l'effondrement, je crois, ou quelque chose comme ça. Et comment ? Devant l'effondrement. L'effondrement. Et qu'il annonce pour 2035 ou quelque chose comme ça. Enfin bon, peu importe si c'est 35 ou 38. Mais donc on voit ce type de littérature, ça n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, ce type de littérature se répand avec une grande rapidité et obtient, alors je ne sais pas si le chiffre des ventes est extraordinaire, mais obtient en tout cas une attention, on en parle au moins pendant 15 jours. Bon, voilà.
D'accord. Non, juste un mot, parce que pour moi, l'ambiguïté de l'anthropocène, du mot et de la chose, en un sens, et le mot le dit bien, c'est que ça peut tendre à faire croire encore à une exception humaine, au sens où c'est l'humain, avec sa technique, qui en vient à modifier les équilibres planétaires. Et en 200 ans, on a modifié ce qui met en général des millions d'années à évoluer. En fait, pour moi, la leçon de l'anthropocène, mais c'est ça que ça veut dire aussi, c'est bien de reconnaître que les humains sont des vivants. Et c'est pas seulement de reconnaître que les humains ont transformé le vivant, mais aussi qu'ils sont des vivants. Avec cette question-là qui revient partout, de telle sorte que dans le slow food aussi, tu le rappelais, ce à quoi on revient, c'est à une autre façon d'organiser la vie avec une... voilà. Donc c'est aussi... C'est pas le retour à la Terre, mais c'est quand même aussi... Et puis il y a ce débat sur l'artificialisation du vivant, sur le traitement des animaux, sur la préservation d'un habité, le monde, etc. Donc pour moi, la question, c'est vraiment celle des vivants humains. Et je pense que si on oppose trop le slow au fast, on ne retrouvera pas un équilibre. Ce qu'il faut, c'est justement reconstruire un équilibre où on puisse distinguer les rapports au temps, et y compris retrouver des rapports au temps qui ne soient pas obsédés par le temps, ni en slow, ni en food, ni en fast. Non, mais ça me paraît très, très important parce que, précisément, je pense que cette fascination pour l'apocalypse, c'est ce clash que tu décris très bien entre l'obsession de la fin et le présent, finalement, l'apocalypse now. Et non seulement now, mais vraiment, voilà, tout de suite. Ce qui nous permet plus du tout de penser la construction d'une expérience temporelle partagée, collective, humaine, etc. Or, il est quand même certain qu'on a encore le temps de construire un rapport au temps, moi, il me semble. Donc, la question, c'est une fois qu'on partage le diagnostic, là aussi, qu'est-ce qu'on fait pour y répondre ? Comment est-ce qu'on lutte ? Non pas seulement... Parce que ce que j'aime beaucoup dans le présentisme tel que tu le décris, et avec cette histoire de l'apocalypse qui se rajoute dessus, c'est qu'il s'agit moins d'une condition qui nous serait faite par l'époque que quand même aussi d'un discours sur l'époque. Et je pense qu'on se bat aussi contre certaines interprétations de l'époque. Et on peut quand même lutter discours contre discours. Vous interprétez ça comme l'apocalypse, d'une certaine façon, ou comme hyper-présentisme. Nous, on comprend bien qu'il y a des fondements objectifs, d'ailleurs, du présentisme, au sens, en un certain sens. Il y a des vraies urgences vitales. Mais on peut lutter contre elles autrement en acceptant à la fois de prendre le temps, mais en se donnant les moyens de prendre le temps. Collectivement. Donc je pense vraiment que c'est par des institutions humaines et par une solidarité, y compris financière, qu'on peut reconstruire un espace-temps, etc. Donc voilà, donc moi je pense qu'il faut passer aussi du diagnostic à l'action. Et sans contredire le diagnostic, mais en l'enracinant dans la question du vivant.
Bon, merci à tous les deux. On va peut-être commencer à discuter parce que ça me paraît très important. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que vous n'avez pas le temps heureux, ni l'un ni l'autre. Hein ? Ben, non, pas vraiment. tu dis quand même, toi, Frédéric, que tout le rapport au temps, quand il est explicite, est sous la forme de la douleur.
Il est explicite, mais c'est pas pareil. Ben, c'est-à-dire, on peut avoir une expérience temporelle heureuse du moment qu'on ne pense pas au temps.
Oui, ben voilà. C'est pas gai, ça. C'est pas gai que quand on pense, ça soit plus triste que quand on ne pense pas. Je suis assez frappée, au fond, par la convergence là-dessus, hein, de l'un avec l'autre. Si on y pense, c'est plutôt pire. Voilà. Enfin, c'est pas mieux, en tout cas.
Hein. Non, c'est pas mieux, mais c'est pas pire.
Bon. Moi, j'aurais envie d'introduire immédiatement des phrases qui viennent... faire bouger ça, par exemple, je ne sais pas, une phrase de Rimbaud, elle est retrouvée, l'éternité, c'est la mer aller avec le soleil. Bon, comment est-ce que ça se combine, ou comment est-ce que ça s'antagonise avec ce que vous venez de dire, mais comment ça s'accroche, ou ça se décroche de ça? Bon, voilà, c'est juste, au fond, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pas simplement comment on va faire mieux dans ce que vous décrivez, qui est après tout quand même assez sinistre. Hein.
Désolé.
Mais sinistre peut-être aussi parce qu'il ne va pas... Enfin, en même temps, quand je vous entendais parler, je pensais à cette phrase d'Arendt, oui, on est... voilà, qu'on arrive dans une société de travailleurs sans travail, c'est ce qu'on peut imaginer de pire. Bon. Je pense que très largement, la perception qu'on a du temps... est lié à cette société de travailleurs sans travail, c'est ce qu'on peut imaginer de pire. Bon, mais peu importe, je lâche quelques petites bribes comme ça, simplement pour ouvrir un peu plus la discussion, et je ne demande qu'à avoir des interventions peut-être.